Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. 100 ans après la révolution d'octobre, que reste-t-il du monde soviétique dans la Russie d'aujourd'hui? Si Staline arrive toujours en tête dans les sondages de popularité, il est peu probable que ceux qui préfèrent le petit père des peuples à l'actuel président Vladimir Poutine auraient aimé vivre en 1937 à l'époque de la Grande Terreur. À Moscou, dans le reste du pays, le programme des cérémonies du centenaire est paradoxalement très modeste, preuve de l'embarras des autorités, car que doit-on célébrer? La gloire de octobre ou la révolution sanglante. Le président russe juge contrasté les conséquences de la révolution de 1917, tandis qu'une génération de gens libres d'esprit apparaît et s'affirme. Elle est la première génération post-soviétique. Que reste-t-il de la révolution d'octobre dans cet immense pays et dans la tête de ses citoyens? Entre Paris et Moscou, nos invités vont nous éclairer. Je vous les présente. Alain Blum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS. L'EHESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Et par ailleurs, chercheur au CERSEC, qui est là, le centre d'études du monde russe, caucasien et centre européen. Vous êtes encore le co-éditeur de « Et 1917 devient révolution », publié au Seuil avec le concours de la BDIC. Bonjour Anna Gisteva.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Toulouse de Jean Jaurès et par ailleurs chercheuse, vous aussi, au CERSEC. Arnaud Dubien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire franco-russe et vous êtes en duplex de Moscou avec à vos côtés Daniel Valo. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Correspondant de RFI en Russie, bien évidemment, en ligne et en duplex du studio RFI de Moscou. Alors Alain Blum, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Moscou, comme à Saint-Pétersbourg, comme dans le reste de la Russie, ce centenaire de la révolution d'octobre est fêté sans éclat. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de commémoration officielle. Il y a des manifestations, il y a des expositions. Il y a une, par exemple, une belle exposition au musée de l'histoire contemporaine, qui est l'ancien musée de la Révolution d'octobre. Il fallait quand même que
c'est le lieu, continuité le lieu soit.
Mais c'est un événement effectivement dont la Russie ne sait pas trop quoi faire. La Russie aujourd'hui, elle cherche à rétablir une continuité avec l'Empire. La révolution les gêne. Cette continuité, ils la rétablissent plutôt via Staline. Donc, en gros, il faut faire une parenthèse de la révolution. Ils aiment pas du tout, en particulier, pas tellement Lénine, d'ailleurs, que pour eux, un produit de la révolution de février. Mais Kerensky, c'est vraiment pas leur personnage. C'est lui qui a
alors
fait tomber le tsar.
Kerensky, c'est la révolution de février, voilà. 6 mois auparavant. Et là, il est totalement oublié.
Il est oublié. Il est surtout haï parce que c'est quand même lui qui a effectivement porté le mouvement révolutionnaire et entre autres, conduit à l'abdication du tsar. Et ça, c'est vraiment ce qui n'est pas accepté aujourd'hui en Russie. D'où cette difficulté, effectivement, de traiter de la révolution. Vladimir Poutine cherche à parler réconciliation. En gros, on réconcilie les rouges et les blancs. On réconcilie les ennemis d'alors. Mais c'est quelque chose qui est effectivement très, très difficile. Donc, une discrétion. Je ne sais pas ce qui est prévu exactement le 7 novembre. Je pense que officiellement, presque rien n'est prévu.
Et en tout cas, pas de grandes manifestations en public, bien évidemment.
Non, j'avais entendu dire qu'il devait y avoir, par exemple, une reconstitution de la prise du Palais d'Hiver, qui a été le fondement à Saint-Pétersbourg, qui avait été le fondement du mythe d'octobre, ce qu'on peut dire, hein, lorsque, après la chute du gouvernement provisoire, quelques soldats vont prendre le Palais d'Hiver, où il y avait encore quelques membres du gouvernement provisoire, celui qui avait été établi en février. J'ai entendu dire qu'elle n'aurait pas lieu, finalement.
On va poser la question à Arnaud Dubien, qui est à Moscou. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour le 7 novembre, alors qui, avec ces deux calendriers, grégorien chez nous, julien en Russie, fait que la révolution d'octobre est fêtée en novembre selon notre calendrier. Alors, qu'est-ce qui est prévu le 7 novembre, Arnaud Dubien?
Rien de très spectaculaire à ma connaissance. Je dirais, l'idée, c'est de faire discret, effectivement, de ne pas remuer les plaies. Ces commémorations, il y a un malaise évident des autorités qui sont gênés vis-à-vis de la révolution. Le pouvoir actuel combat les révolutions à l'extérieur, dans son environnement géopolitique immédiat, en Russie aussi. Le pouvoir veut éviter de revenir sur des épisodes qui divisent la mémoire nationale, qui divisent les Russes. Donc cet anniversaire est doublement gênant.
Oui, 1917, ça pose un problème aux Russes et au premier d'entre eux, Vladimir Poutine. Arnaud Dubien.
Oui, encore une fois. Encore une fois, parce que ça oblige à revenir sur 1917, mais également sur ce qui est sorti de 1917, la période soviétique. Or, la réconciliation qu'évoquait tout à l'heure Alain Blum, c'est plutôt une réconciliation par le silence. On évite de parler des choses.
Alors, Daniel Valot, vous revenez, vous, de Saint-Pétersbourg pour RFI, vous avez préparé un grand reportage. Saint-Pétersbourg, c'est évidemment la ville de la Révolution d'octobre. Dans quel état d'esprit sont les Saint-Pétersbourgeois? Plutôt fierté, nostalgie, indifférence?
Bon, je dirais plutôt indifférence. C'est vraiment ce qui ressort. C'est pas un événement qui est attendu par les habitants de la ville. Il y a très peu de choses qui sont organisées. D'ailleurs, j'ai voulu assister à cette fameuse reconstitution en 3D de la prise du Palais d'hiver. Je me suis peut-être trompé de jour et d'heure, mais en tout cas, je n'ai assisté qu'à un très modeste son et lumière avec deux haut-parleurs qui diffusaient de la musique et des poèmes et une lumière rouge diffusée sur le palais. C'était vraiment pas la hauteur de ce qu'a représenté cette révolution. Les habitants de Saint-Pétersbourg, je pense qu'ils sont comme tous les Russes, c'est-à-dire que il y a une partie qui regrette l'URSS, donc il y a cette nostalgie soviétique. Il y a une autre partie qui, elle, pense plutôt aux crimes qui ont suivi la révolution. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui entretiennent une certaine confusion par rapport au bilan de la révolution, qui y voient du positif, qui y voient du négatif. Et voilà, qui sont, je pense, on peut dire plutôt indifférents. Ils sont beaucoup plus concernés, semble-t-il, par exemple l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.
Anna-Zaïf Steva, c'est une vraie question. Quand on célèbre octobre, on célèbre quoi? La gloire d'octobre et l'arrivée, en gros, de la Russie sur la scène internationale, ou la révolution sanglante et les millions de morts qui ont suivi?
Alors effectivement, il y a une grande confusion et il y a beaucoup moins d'indifférence par rapport à Staline et tout ce qui est le combat entre les mémoires de la Grande Guerre, la grande victoire de la Seconde Guerre mondiale.
La Grande Guerre patriotique,
comme on le nomme en Russie, et donc les mémoires des victimes, donc de répression stalinienne. Donc là, il y a un vrai conflit qui est vivant. Alors que par rapport à la révolution de 1917, effectivement, il y a une sorte de consensus mou qui semble s'établir. Je partage pas tout à fait l'avis qui consiste à dire que il y a encore vraiment un débat vivant entre ceux qui considèrent que c'est surtout les victimes, enfin c'est surtout une catastrophe pour la suite de l'histoire, et de l'autre côté que c'est un événement très marquant. Il y a une sorte de pacification, peut-être, qui commence parmi les jeunes générations, en tout cas, de cette mémoire, qui fait que ça devient un pur symbole, un peu vide.
Alors,
finalement,
pour vous, qui avez une trentaine d'années, vous avez vécu à peu près autant de temps en France et en Russie, pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente, octobre 1917?
Pour moi, personnellement, je suis née donc en 1978, et lorsque l'URSS a été fini, donc j'avais 13 ans. J'ai été donc petite fille d'octobre, comme on dit, petit-fils et petite fille d'octobre.
C'est-à-dire que vous avez été une pionnière.
C'était l'organisation de toute l'Union, en fait, de jeunesse. D'abord des collégiens, en gros, et ensuite, quand on passe au lycée, on devient pionnier.
Avec le petit foulard rouge autour du cou.
Le petit foulard rouge. Donc, on était avec une copine qui était aussi très politisée à l'époque de la perestroïka. On était parmi les premières de la classe à ôter ce foulard, ce qu'après, c'était le mainstream, tout le monde a ôté son foulard, parce que on était très, à ce moment-là, engagé dans la dénonciation de ce système, de, quand on disait partocratie, c'est-à-dire bureaucratie du parti, contre l'article 6 de la constitution soviétique qui proclamait que le parti a le rôle dirigeant dans le pays. Donc, c'est ce principe-là qui était le plus contesté à l'époque. Il y a aussi des élections des premiers soviets libres, c'est-à-dire avec les réelles alternatives, mais par ont participé en fait à ces élections, à ces premières élections libres.
Et au bout du compte, donc, maintenant, le temps est passé, 26 ans depuis la fin de l'URSS, 100 ans après cette révolution d'octobre. Finalement, dans votre esprit, dans votre histoire, dans votre mémoire, octobre 17, c'est quoi aujourd'hui? C'est un moment, une date dans l'histoire de la Russie?
Je dirais que c'est une sorte de pour la majorité des Russes en tout cas, ce que font des sociologues en ce moment, il y a beaucoup aussi de sondages, par exemple par le Centre Levada, qui ont remarqué que finalement, comparé à l'immédiat après URSS, c'est-à-dire 1990 par exemple, 91, ils ont commencé à faire des sondages comparés tout au long des années 90 et les années 2000. Et c'est la dynamique qui est intéressante, à savoir que de plus en plus, Lénine est finalement considéré comme globalement une figure historique positive. De moins en moins, on considère que c'était un faux chemin qui a été emprunté et un chemin non artificiel, comme on disait à l'époque. De moins en moins, il y a cette image de la Russie qu'on a perdue, la nostalgie de la Russie pré-soviétique, impériale. Il y avait donc beaucoup ces humeurs-là dans l'immédiat après URSS. La Russie qu'on a perdue, maintenant, on va renouer avec ce chemin historique naturel. Maintenant, de moins en moins, il y a cette image, parce que les sondages donnent vraiment la dynamique.
On va évidemment revenir, mais beaucoup plus pour vous personnellement, pas la sociologue, mais Anna.
Pour moi personnellement, effectivement, c'est un événement qui est dépassionné. Enfin, c'est-à-dire, je n'ai pas la perception personnel d'octobre de 1917, je dois avouer. Donc j'ai des souvenirs, des bribes de souvenirs d'enfance où il y avait des contes sur Lénine, en fait, qu'on nous faisait lire à l'école, lorsqu'il mangeait les encriers faits avec du lait, le pain sur lequel il mettait du lait, pour écrire entre les lignes des livres, pour écrire ses notes, pour composer ses nouveaux manifestes. Alors qu'il était emprisonné par la police tsariste. Donc il y avait des légendes de cette sorte-là. C'était les nouvelles de Mikhail Zosimko, c'était un des grands écrivains de l'époque. Et donc dans ma conscience, il reste des images de Lénine, par exemple, qui mange son encrier fabriqué avec un bout de pain, avec du lait, qu'il utilisait pour écrire entre les lignes.
C'est ce qu'on appelle une icône, Alain Blum. Alors, il faut dire quand même que si cette mémoire est si... elle se dissout petit à petit, si elle revient, parce que c'est quand même des périodes grandioses de l'histoire de la Russie, c'est aussi grâce peut-être, et d'abord à Vladimir Poutine, qui est un homme quand même de la synthèse, on peut dire ça, Alain Blum.
C'est un homme de la synthèse, c'est un homme qui cherche... De la synthèse, c'est compliqué parce que...
De la synthèse tsariste et de la synthèse soviétique.
Voilà, c'est un homme qui rétablit une continuité, effectivement, là où les soviétiques avaient eu tendance, enfin le parti communiste avait eu tendance à créer une véritable rupture. Donc, effectivement, il a provoqué ça, mais là-dessus, il n'est pas seul. Je pense qu'il y a une poussée quand même vers cette synthèse qui est assez forte. Je me souviens d'une exposition en 2013 sur la dynastie Romanov, qui est la dynastie du tsar Nicolas II en particulier, qui est le dernier de cette dynastie. Il y avait une exposition qui était d'ailleurs, je dirais pas faussement historique, mais qui était une exposition de propagande quelque part, sur cette synthèse. Il y avait des queues absolument immenses. Donc ça correspond à quelque chose. Mais c'est pas que Vladimir Poutine. Et juste pour ajouter une point, moi, ce qui me frappe là avec cette commémoration, c'est quelque part par rapport à ce que disait Anna Zaitseva, c'est que en France le débat est sans doute plus politisé, la révolution est sans doute plus présente en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne qu'elle ne l'est en Russie. Et alors, elle a un sens beaucoup plus important aujourd'hui en France. Il y a des quand on voit Olivier Besancenot qui fait un ouvrage d'histoire de la révolution russe. L'Humanité publie, bien sûr, tous les journaux avec des positions très politiques.
Et on va en profiter pour dire qu'il y a une exposition en ce moment aux Invalides qui commémore cette histoire à laquelle vous avez participé, puisque vous êtes un des
commissaires.
Un des commissaires.
Et 1917 devient révolution. C'est une exposition qui est faite sur la base de documents de 1917. On a vraiment tenu à avoir les documents. C'est les fonds de la BDIC, la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, sont magnifiques. On a voulu plonger les gens dans l'atmosphère qu'il y avait à l'époque, à travers les écrits. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, des tracts, des affiches, des objets, des films, donc qui se comprennent ce que c'était qu'un moment révolutionnaire. Et c'est une exposition que je pense très belle, moi, mais j'étais un des commissaires, donc je ne peux pas dire le contraire.
Jugé parti.
Mais effectivement, où il y a une grande richesse de matériaux, et ça replonge, là, justement, dans un événement qui est un événement
alors, commissaire, mais pas commissaire politique. Pas donc commissaire politique. Une exposition qui se déroule non pas à Moscou, mais à Paris, aux Invalides, jusqu'au 18 février. Arnaud Dubien, comment interpréter quand même le fait que Staline, aujourd'hui, dans les sondages, soit plus populaire que Vladimir Poutine, qui pourtant atteint une cote de popularité que bien des dirigeants européens lui envieraient?
Bon, il y a popularité et popularité, popularité et intention de vote. Il faut faire attention, évidemment, aux chiffres. Bon, il est clair que aujourd'hui et depuis quelques années, la figure de Staline est avant tout liée à la victoire de 1945 et pas ou moins associée aux épisodes tragiques qui ont précédé la guerre, la grande terreur, la collectivisation. Donc évidemment, la popularité entre guillemets de Staline s'en ressent.
Alors, Staline est beaucoup plus.
Il y a une volonté manifeste de simplifier les choses. Et encore une fois, ce qu'il faut souligner, c'est que les Russes ne sont pas au clair avec leur histoire du XXe siècle. C'est vrai de 1917. C'est vrai de la période soviétique au sens large. Il y a eu un vrai travail, et Alain Blum pourrait en parler longuement, je pense, d'exploration et de mise au clair au moment de la perestroïka. Ce travail a été interrompu, et je pense qu'on est dans une phase de régression depuis quelques années.
Alors, Staline est plus populaire que Lénine, ce qui est assez contradictoire, ce qui est toujours difficile de comprendre ici quand on est dans le monde occidental, alors que des statues de Lénine, je les ai pas comptées, mais certains l'ont fait pour moi, il y en aura encore 6000 en Russie, ce qui est considérable. Il y en avait 7000 du temps de l'Union soviétique, ça veut dire que 1000 seulement ont quitté leur piédestal. On en crée de nouvelles, d'ailleurs, des statues de Staline. Tout ça, c'est un peu contradictoire. Alors, vous l'avez dit, les Russes ne sont pas au clair avec leur histoire, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, le fait qu'ils ne soient pas au clair ?
Alors, tout d'abord, sur Staline, effectivement, il y a un phénomène, alors certains parlent de réhabilitation, je pense que c'est un phénomène assez complexe. Il y a beaucoup d'ignorance, d'abord, il y a des manipulations, plus ou moins ouvertes, de certains éléments du pouvoir, et surtout, cette identification de Staline à la victoire de mai 45, qui est un épisode. Et certains diraient d'ailleurs que la victoire est plus due à l'héroïsme du peuple soviétique, des peuples d'Union soviétique, qu'à Staline. Il y a peu, pratiquement pas en réalité, de statues de Staline. On en a parlé de quelques statues qui ont été ouvertes récemment, mais depuis 1961, il n'y a pratiquement plus de monuments à Staline en URSS, et Staline, à l'époque, avait été déplacé du mausolée et enterré derrière Lénine.
Alors, il y a en tout cas un mot qui n'a pas bonne presse en Russie, c'est le mot révolution, qui veut rebondir Alain Blum.
Oui, bien sûr, en Russie, on n'aime pas les révolutions. Bon, je ne connais pas beaucoup de pays, même les grandes démocraties, où on aime les révolutions. Mais je crois qu'en Russie, on n'aime pas les oppositions, les contestations. Et ça, c'est un point très fort. La révolution russe a été avant tout au départ, avant la prise de pouvoir par les bolcheviks, une révolution populaire. C'est vraiment des manifestations populaires. Et ça, effectivement, ça fait très très peur au pouvoir autoritaire de la Russie.
Anna, vous vouliez réagir au mot révolution.
Tout à fait. En fait, tout d'abord, peut-être pour revenir très brièvement sur Staline et l'ambivalence, en fait, de la récupération de cette figure historique par le régime contemporain, c'est que dans Staline, ce qu'on valorise, c'est des composante idéologique du régime du tout, c'est plutôt le fait qu'il est positionné comme un manager efficace, comme selon une citation célèbre qui a fait un tollé il y a quelques années, dans un des manuels d'histoire en 2009, recommandé par le ministère de l'éducation pour être utilisé dans les écoles secondaires. Donc Staline est présenté comme manager efficace qui a su relever le pays, sa productivité la veille de la guerre, il a préparé la guerre, à l'effort de guerre. Donc on vide du contenu idéologique les pages de l'histoire soviétique, et ça concerne d'ailleurs aussi les révolutions. Et par rapport à les révolutions, pour revenir au fait que le mot révolution est un gros mot pour le régime actuel, c'est qu'il est, j'exagère quasiment
à peine,
c'est que les révolutions passent souvent aussi de pair avec révolution orange ou révolution de couleur. Et il faut pas oublier que c'est la vraie hantise.
Donc, c'est la révolution en Géorgie, en Ukraine.
Voilà, à partir du début des années 2000, et surtout avec la révolution orange en Ukraine en 2004, qui a résulté en des événements qu'on connaît bien actuellement. Et ce qui fait que Poutine, bizarrement, quelque part, il repolitise ce passé. À l'occasion, par exemple, récemment, de la réunion d'ouverture du club de Valdaï, qui est en fait le club des dirigeants économiques de divers pays.
C'est forum de Davos de voilà. Vladimir Poutine.
Et néanmoins, Poutine, à l'occasion de l'ouverture de ce Davos russe, parle de la révolution de façon à pointer le manque de responsabilité politique à la fois des conservateurs qui voulaient figer le pays à ce moment-là, et aussi des révolutionnaires qui voulaient l'amener vers le chaos.
On va revenir sur ce passé difficile en Russie, que les Russes ont un peu de mal à aborder. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. 100 ans après la révolution d'octobre, que reste-t-il du monde soviétique dans la Russie d'aujourd'hui? Si Staline arrive toujours en tête dans les sondages de popularité, il est peu probable que ceux qui préfèrent le petit père des peuples à l'actuel président Vladimir Poutine auraient aimé vivre en 1937 à l'époque de la Grande Terreur. À Moscou et dans le reste du pays, le programme des cérémonies du centenaire est paradoxalement très modeste, preuve de l'embarras des autorités, car que doit-on célébrer, la gloire d'octobre ou la révolution sanglante? Le président russe juge contrasté les conséquences de la révolution de 1917, tandis qu'une génération de gens libres d'esprit apparaît et s'affirme, elle est la première génération post-soviétique. Que reste-t-il de la révolution d'octobre dans cet immense pays et dans la tête de ses citoyens? Entre Paris et Moscou, nos invités nous ont déjà un peu éclairés, je vous les représente. Alain Blum, démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS et par ailleurs chercheur au CERSEC, c'est le centre d'études du monde russe, caucasien et centre-européen. Anna Zaïf Steva, maître de conférence à l'université Toulouse de Jean Jaurès, Arnaud Dubien, directeur de l'observatoire franco-russe, et il est en duplex de Moscou, et à ses côtés, Daniel Valot, correspondant de RFI en Russie. Alors avant de reprendre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Laurence Abbé.
Bonjour Daniel.
Courrier International a consacré un numéro hors série aux 100 ans d'octobre, Russie, les héritiers de la révolution, avec à la une un curieux portrait, moitié Lénine, moitié Poutine, près de 100 pages issues de la presse russe. Et l'article qui a retenu votre attention, Laurent, c'est celui du site gazeta.ru. Et à l'éternelle question, le soviétisme marque-t-il encore l'esprit des Russes? Eh bien, l'auteur de l'article explique que ce n'est plus tout à fait vrai, en tout cas pour la dernière génération, c'est-à-dire la première génération post-communiste.
Eh bien, alors, c'est ce que nous raconte un auteur du journal Gazeta Rue dans le hors-série, qui est un auteur qui est finalement plein d'optimisme et qui nous dit, en se référant à l'exemple de son propre fils qui vient d'avoir son bac cette année, que eh bien, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus rien de soviétique. Eh bien, en quoi ils n'ont plus rien de soviétique? Eh bien, essentiellement par le sentiment de leur liberté intérieure. Contrairement à la génération d'avant, donc la génération du père qui avait été jeune au moment de la perestroïka, qui était pourtant une période d'ouverture, eh bien, ces jeunes n'ont pas été façonnés spirituellement ou intellectuellement, ni physiquement, par ce carcan soviétique qui voulait étriquer, coincer les corps et les esprits. Il dit par exemple que nous, les parents, on nous a appris à marcher au pas dans les parades de pionniers, à être serrés dans les queues devant les magasins d'alimentation. Et les jeunes d'aujourd'hui ont pu découvrir, apprendre et garder comme valeur absolue la liberté intérieure et la légèreté du corps.
Laurence Abbé, merci. Courrier International, l'hebdo, le site et ce numéro hors série absolument passionnant, Russie, les héritiers de la révolution. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment Alain Blum est-on raconté, expliqué aux actuelles générations, ceux qui sont sur les bancs des collèges et des lycées, la révolution d'octobre?
Alors d'abord, elle est intégrée dans la Première Guerre mondiale pour quelque part rendre en partie responsable les grandes puissances de l'époque qui ont engagé la Première Guerre mondiale, donc la France, les Britanniques, l'Allemagne, et quelque part dégager un peu la Russie de tout ça, qui aurait été soumise à cette influence. Donc c'est intégré d'ailleurs, à raison, hein. Bon après, en termes de responsabilité, la question n'est pas là, mais c'était une lutte de grande puissance. Donc la cause première, c'est le déséquilibre du continent européen, provoqué par la Seconde Guerre mondiale, qui provoque la déflagration en octobre. Et ensuite, une non-maîtrise des événements qui se succèdent. Donc c'est vraiment le point central de l'enseignement d'octobre, me semble-t-il, quand on regarde un peu les manuels.
On le raconte comme quelque chose de grandiose, qui a...
Non, plutôt comme quelque chose qui arrive, qui débarque malgré soi. Et qui crée justement... C'est autour de l'idée patriotique qui crée ces tensions au sein du peuple russe qui pourtant était uni.
Et qu'est-ce qu'on raconte sur après octobre, c'est-à-dire la période soviétique, la période des goulags, la période des déprivations diverses et variées.
C'est ambivalent. On va parler des répressions. On va parler de la collectivisation, mais on va plus ou moins, alors ça dépend d'Emmanuel, hein, on va plus ou moins dire que la collectivisation, c'est lorsque ça a été dramatique pour les campagnes, c'est lorsqu'on a imposé aux paysans de se mettre dans les colcos, mais surtout on en a déporté en masse, on en a tué pour imposer cela. C'est la guerre de l'État contre les paysans. On en parle. Mais on met en avant aussi que c'était nécessaire pour provoquer le processus d'industrialisation qui avait pris beaucoup de retard. Donc il y a toujours ce côté, ok c'est un drame, mais il n'y avait pas trop le choix. Et les grandes purges, c'est un drame, c'est considéré comme une erreur, alors je ne dirais pas le terme erreur, je ne sais pas exactement le terme qui est employé, les grandes purges de 1937, qui ont quand même conduit à fusiller 600 000 personnes, mais c'est une étape effectivement qu'on cherche à oublier parce que il fallait préparer la guerre, et donc l'industrialisation était nécessaire à préparer la guerre.
L'oubli, c'est une dimension importante dans l'histoire de la Russie, Nazaïev Steva. Oui, on oublie beaucoup de choses.
Je pense que l'oubli est une dimension importante. Et d'ailleurs, dans la situation de Gazeta Rouge, il y a une sorte de nouveauté qui est présentée comme une nouveauté, c'est-à-dire cette histoire de liberté intérieure que ressentiraient les adolescents, enfin, de la génération née après la fin de l'URSS. C'est présenté comme une nouveauté par cette journaliste qui était citée de Gazeta Rouge. Je ne sais pas qui c'était, ça m'intéresse du coup. Et alors qu'en réalité, le mythe de la réalité de la liberté intérieure a été très important pour les consciences, notamment pas seulement des dissidents soviétiques, mais surtout pour les citoyens lambda soviétiques qui voulaient se dire finalement, on ne peut rien changer dans le système politique qui ne nous convient pas et qui nous coince, mais on se préserve un espace de liberté à l'intérieur, on pratique nos activités en amateur.
C'est la fameuse liberté autour de la cuisine.
Les kitchen talk, il y a même des ouvrages sortis, un ouvrage américain qui s'appelle Kitchen Talk, donc c'est un genre discussion.
Que pendant le monde soviétique, on parlait autour entre ses amis très proches.
On refait le monde dans
la cuisine.
Hein. Exactement, sauf que ça n'a aucun impact sur les réalités sociales et politiques, mais on considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un impact parce que de toute façon, le pouvoir c'est une affaire sale. Ils n'ont qu'à exercer leur pouvoir là-bas en haut, et nous, on est là, on est libres, on est des citoyens libres. Donc c'est une mentalité qu'on pourrait traiter je dirais pas d'esclaves, mais en tout cas, ça ne contribue pas forcément au changement politique souhaité.
Arnaud Dubien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nazarev Steba? Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la Russie? Est-ce que la Russie a été désoviétisée et jusqu'à quel niveau? Vaste question.
Non, justement, il y a eu un travail de mémoire partiel, je l'ai dit, au moment de la perestroïka, qui s'est poursuivi au cours des années 90, et puis une volonté plus ou moins encouragée d'oublier ou de dépolitiser les choses. Pour revenir sur ce qui a été dit sur la désoviétisation de la jeunesse, oui, certainement, quoiqu'il y a sans doute d'autres chaînes et d'autres aliénations qui sont apparues, mais l'héritage soviétique est quand même massif. Il est massif visuellement, il est massif dans les pratiques sociales, il est massif, en tout cas, visible encore dans certains secteurs économiques. Près de 25 ans après la chute de l'URSS, cet héritage-là est un héritage encore bien présent sur lequel la réflexion n'est pas vraiment engagée, ou en tout cas de façon très partielle et pas forcément, je dirais, sereine.
Et alors pourquoi on n'arrive pas à aller au-delà? Il y a une perpétuelle ambiguïté du pouvoir qui n'a plus rien de léniniste, en tout cas il me semble, mais qui n'a tout de même pas inhumé le grand leader dont la momie repose toujours dans son mausolée sur la place Rouge au pied du Kremlin, face au grand magasin Goum qui affiche un luc ostentatoire. Ce n'est pas la moindre contradiction de la Russie en ce mois d'octobre 2017, Arnaud Dubien.
Oui, d'ailleurs, il y a quelques jours, cette question de l'inhumation de Lénine a ressurgi et le Kremlin a botté en touche en disant que ce n'était pas d'actualité, ce n'était pas à l'agenda de Vladimir Poutine. Non, il y a une volonté de ne pas diviser la population, de ne pas discuter de sujets qui fâchent. Et la révolution d'octobre et la période soviétique, c'est par définition un sujet qui a divisé le peuple russe. Cela a conduit à des épisodes tragiques, y compris à une émigration importante, à la guerre civile. C'est un épisode qui est immédiatement consécutif à la révolution. Et Poutine, d'emblée, dès le début des années 2000, a cherché à faire une synthèse, à rapprocher les histoires, les narratifs, les destins de ces différentes Russies, mais cet exercice a ses limites. Et dans le doute, le pouvoir préfère encourager le silence, en tout cas ne pas rouvrir ces controverses.
Et une illustration, c'est par exemple la situation de l'association Mémorial, qui a évidemment travaillé sur l'histoire de ce pays, qui a bien du mal à survivre, alors que, par exemple, le Parti communiste, qui est, rappelons-le, le deuxième parti du pays, défile avec des portraits de Staline dans les rues de Moscou. Là encore, une contradiction, Alain Blum.
Oui, alors, pour parler de Mémorial, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens, Roginsky, qui a été le, sans doute, le, enfin, qui a été le porteur, qui est le porteur de Mémorial, qui était un ancien dissident, pour lui, enfin, devenir soviétique, ça veut dire quoi? Enfin, être soviétique, c'était pas évident. En revanche, il disait, c'est beaucoup plus 37 qui a façonné la société.
37, donc la c'est Staline, la grande terreur.
La grande terreur, que la révolution elle-même. C'est-à-dire, c'est ça qui a cassé les liens, etc. Et il voyait beaucoup plus en 37 un moment essentiel de rupture par rapport à une société qui était une société où il y avait des liens assez normaux. C'est-à-dire que ça a atomisé, ça, etc. Donc c'est un point important. 37 est peut-être plus déterminant que 17,
que 17
de ce côté-là. Et voilà, donc je crois que ça c'est un aspect important. Et donc, sur le Parti communiste, bon, c'est très ambivalent. Je sais que, par exemple, il y a une exposition qui a été ouverte, mais elle ne dure qu'un mois, sur Lénine. Aux archives, ça devait être au centre de Moscou, ils n'ont pas voulu finalement, et le Parti communiste n'a pas voulu y aller parce que ça donnait c'est les archives qui ont fait ça, et ils donnaient des documents pas très sympathiques sur Lénine, quoi. Ça montre une image de Lénine pas extraordinaire. Donc le Parti communiste joue encore un rôle effectivement très important et tient cet héritage. Mais c'est ça qui est curieux, c'est que Poutine joue avec les deux, c'est-à-dire tient cet héritage communiste et surtout révolutionnaire, alors que en même temps, c'est un agent d'influence très fort. Et les autorités actuelles préfèrent cet agent d'influence que des sociétés comme Mémorial qui les dérangent.
Le Parti communiste aujourd'hui, pour Vladimir Poutine, c'est une force d'appoint. Le Parti communiste s'oppose peu à Vladimir Poutine.
C'est témoigné qu'il y a une opposition qui n'en est pas. Ils ne cherchent pas à renverser le pouvoir. Ils tiennent finalement une forme d'opposition maintenue dans un cadre à peu près solide. Et je crois que ça convient tout à fait à un pouvoir autoritaire, ce type de d'opposition.
Alors ce qui est intéressant de mettre en évidence, c'est que le Parti communiste, qui a été évidemment un parti très athée, aujourd'hui, ça commande fort bien de l'Église orthodoxe de Russie, omniprésente.
Le pouvoir de l'Église orthodoxe est assez étonnant actuellement. Au-delà, d'ailleurs, je pense que des croyances dans la société. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de facto, c'est une autorité très forte. Ils ont beaucoup de richesses. Le Parti communiste, est-ce qu'il s'en accommode? Oui, il s'en accommode. Bon, ils sont pas dans cette ultra-orthodoxe qu'on voit chez Poutine, d'ailleurs, qui est lui, qui pratique et qui le montre et qui est ostentatoire. Mais je crois qu'il y a l'idée que finalement, la religion, on fait avec, effectivement. Et que c'est une preuve de russité forte.
Alors, Daniel Valo, vous qui êtes le correspondant de RFI en Russie, mais qui venez d'arriver à Moscou, vous êtes arrivé il y a deux mois, trois mois tout au plus. Quand on arrive en Russie, est-ce qu'on a encore l'impression de vivre dans un pays qui a été soviétisé, peut-être encore soviétique, dans son organisation, dans le rapport qu'on établit avec les Russes? Qu'est-ce qui reste, est-ce qu'il reste quelque chose pour vous qui avez découvert la Russie il y a quelque temps avec ce monde soviétique que vous n'avez pas connu?
Alors justement, je ne l'ai pas connu, donc je ne peux pas comparer, mais d'abord à Moscou, il y a évidemment la ville, il y a plusieurs choses qui évoquent la période soviétique, il y a les gratte-ciels de Staline, bien sûr, il y a le métro, alors c'est évidemment très impressionnant. En surface, par contre, la ville ressemble quand même beaucoup à une ville européenne, j'allais dire comme une autre, non, mais je crois qu'elle évoque beaucoup moins la période soviétique. Il y a encore une dizaine d'années, tout le monde dit ici que Moscou a beaucoup changé ces dernières années. Alors en ce qui concerne les relations sociales, l'héritage soviétique, moi je le verrais plutôt dans les contraintes bureaucratiques, les lourdeurs de l'administration. Ça, c'est quand même très impressionnant, surtout quand on arrive et qu'on s'installe. Il y a par exemple ce fameux enregistrement quand on arrive, même comme en tant que touriste, il faut s'enregistrer auprès des autorités. Ça paraît un petit peu ajouter de la complexité là où on n'en a pas forcément besoin. Voilà, moi, ce que je retiens peut-être de l'héritage soviétique. Alors, la bureaucratie, ça provient aussi peut-être du tsarisme, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça a un parfum un petit peu du RSS, on va dire.
Arnaud Dubien, on disait à l'époque de l'URSS, et je ne sais pas si on les dit toujours, qu'en Russie, on aimait compliquer les choses de façon à pouvoir les résoudre après. Est-ce que c'est toujours vrai, selon vous ?
En tout cas, il y a toujours beaucoup de problèmes à résoudre, ça c'est sûr. Je voudrais insister sur les permanences. On s'interroge, c'est le sujet de l'émission, sur 1917, mais beaucoup de phénomènes de la Russie d'aujourd'hui remontent à avant 1917. Et il faut s'interroger sur, sans déterminisme bien sûr, mais s'interroger sur les grandes permanences, que ce soit en politique étrangère ou en politique intérieure. Je pense que c'est un angle assez fécond de réflexion.
Alors par exemple,
sur la vision du monde, la relation à l'Europe, par exemple, sur qu'est-ce que l'intérêt national de la Russie post-soviétique. Alain Blum a souligné tout à l'heure la relation à l'opposition, qui est vue finalement comme une atteinte à la légitimité du pouvoir, et donc de l'État, et donc de la Russie. Tout ça vient de loin, et d'avant 1917, me semble-t-il.
Alors, est-ce que vous êtes en train de dire, Arnaud Dubien, que la Russie ne peut se voir que comme un très grand pays qui joue un rôle majeur sur la scène mondiale ?
C'est même, je dirais, une précondition. C'est assez peu souligné. Il y a une image assez fausse, je pense, en Occident, sur une Russie unie, un peuple qui serait derrière Poutine. Non. La société russe est particulièrement divisée. C'est une société complexe, une société meurtrie, qui atomisée, où les gens se réfugient volontiers dans la sphère privée et familiale. Et d'ailleurs, Poutine a souligné ce problème il y a quelques années en évoquant la nécessité de cimenter cette société. Oui, la Russie, encore une fois, la Russie d'aujourd'hui, je pense, pour la comprendre, il faut évidemment interpréter calmement la période soviétique, 1917, mais peut-être aussi aller un peu plus loin et interroger la société, l'histoire, les guerres, la diplomatie de la période tsariste, en tout cas du 19e siècle.
Carrefour de l'Europe, la Russie en 2017, que reste-t-il de octobre 1917, 100 ans après, dans le pays, dans la tête des gens? Nous sommes avec Alain Blum, démographe historien, avec Anna Zaïevsteva, maître de conférence à l'université Toulouse de Jean Jaurès, avec Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe en duplex de Moscou, et avec Daniel Vallot, notre correspondant en Russie. L'histoire, Alain Blum, comme vient de nous l'expliquer Arnaud Dubien, c'est essentiel pour comprendre la Russie d'aujourd'hui.
J'en suis persuadé, effectivement. D'une part, il y a des continuités, mais comme partout, effectivement, et Arnaud Dubien a tout à fait raison, qui tiennent à la fois à des dimensions politiques, à des positions géographiques, à des dimensions anthropologiques. Il y a des continuités profondes entre la Russie des tsars et la Russie aujourd'hui, mais on pourrait dire la même chose de la France. Enfin, là-dessus, il y a de l'Europe en général. Il y a vraiment ce type de continuité. C'est un pays qui est très marqué par des ruptures qui sont de nature différente, effectivement, que celles que la France a connues. La France a connu deux guerres qui ont marqué profondément la société française aussi. La Russie, ça a été des ruptures qui sont des guerres civiles aussi, des tensions intérieures. Et je crois qu'aujourd'hui, pour comprendre la Russie, c'est encore très présent. Un autre aspect aussi, c'est la dimension politique, effectivement. En février 17, ce sont des élections. Il y a des élections qui font penser que la Russie va rentrer dans un. Il y a des élections au suffrage universel. Il y a beaucoup de partis politiques. Il y a une vraie démocratie.
C'est l'élection de l'Assemblée constituante.
Voilà, c'est l'élection de l'Assemblée constituante que Lénine n'ose pas interrompre. Il l'interrompra à la réunion de l'Assemblée constituante le 5 janvier 18 en dissolvant par les armes et en tirant sur la foule d'ailleurs. Donc c'est. Mais il y a des vraies élections. Il y a beaucoup de partis et tout ça. Et c'est interrompu à ce moment-là. Et là, naturellement, cette disparition du politique au sens européen du terme a laissé des traces très profondes. On ne peut pas comprendre le système autoritaire aujourd'hui sans comprendre cette interruption d'un processus de démocratisation qui a lieu en 17.
Alors, évidemment, j'ai envie de vous poser cette question évidente qu'on pose toujours quand on fait une émission sur la Russie. Est-ce que la Russie est condamnée à un pouvoir autoritaire, Alain Blum?
Moi, je pense pas du tout. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on entend toujours ce discours, c'est le peuple russe qui n'est pas mûr pour avoir une démocratie, ou alors c'est une tradition anthropologique très forte qui fait que on est dans un système autoritaire par nature. Non, c'est pas vrai. C'est le processus politique qui a conduit à ce système autoritaire, qui a beaucoup de mal à sortir. Il faudrait une volonté d'en haut, mais c'est pas facile, pour favoriser les partis. J'ai un souvenir que quand Medvedev était président, moi j'avais cru à un moment, j'ai eu tort.
Et donc Vladimir Poutine
Premier ministre. Mais Medvedev avait commencé à initier une volonté de créer des partis, de pousser des partis. Bon, Poutine lui crée des partis qui l'aident. Mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait un peu cette idée qui sortait et qui a été vite ensuite remise au placard. Mais c'est vraiment indispensable, et c'est la dynamique politique peut recréer une vraie démocratie, j'en ai aucun doute, je vois pas pourquoi les Russes seraient moins démocrates que les autres.
Mais lorsque vous avez dit la Russie a été démocratique en gros 24 heures.
Elle a été démocratique quelques mois quand même, et ensuite ça s'est effectivement, elle a été démocratique quelques mois, mais dès 1905 il y a déjà la Douma, c'est un suffrage censitaire. Non, il y a une période quand même d'une vingtaine d'années où elle est démocratique.
Et puis il y a la période post-soviétique, la période d'Eltsine, où il y a eu des élections, le mot démocratie pour les Russes, Nazareva, c'est pas forcément, on ne l'entend pas forcément comme on l'entend ici en Europe occidentale. Tout ça, ça ne laisse pas le même souvenir.
Exactement, c'est ça, c'est tout le drame de la transition russe des années 90, justement, c'est que le mot démocratie a été associé durablement par la population qui a subi la thérapie sans choc, non pas la thérapie de choc, mais choc sans thérapie, ces années de marché sauvage, comme on dit, le mot démocratie a été transformé en merdocratie, démocratie. Voilà, et c'est très significatif. Et le régime de Poutine a joué à fond sur cette opposition entre les années 2000, où il y a la relative prospérité qui commence à revenir grâce à la rente pétrolière, le taux de pétrole qui augmente et de gaz, et les années sauvages des 90 qui ont fait que cette démocratie parlementaire a été très très dévalorisée, tant par la population spontanément que par le pouvoir actuel. Sauf que il ne faut pas oublier que c'est 1993 qui était l'année de rupture politique véritable, et avec lequel le régime actuel est en continuité. Bon, c'est un autre sujet, c'est un vaste sujet où il y a eu quand même les origines du régime présidentiel très fort d'aujourd'hui, dont Poutine profite, ont été posés quand même par Eltsine lorsqu'il a dissous le Parlement russe qui était, lui, héritier des soviets, en fait, quelque part, par sa forme.
Bon. Arnaud Dubien, est-ce que la démocratie...
Les occidentaux à l'époque, faut-il le rappeler.
La démocratie telle que nous l'entendons en Europe, vous qui vivez en Russie depuis assez longtemps, qui connaissez très très bien ce pays et ce peuple, une illusion en Russie ou pas? Alain Blum nous dit que non, il n'y a pas de malédiction, votre point de vue?
Non, je suis d'accord avec Alain Blum, il n'y a pas de peuple plus éligible qu'un autre à la démocratie. Il y a effectivement des ruptures, des accidents historiques. Certains sont durables et laissent des traces profondes. Et la Russie, malheureusement, en a connu beaucoup au XXe siècle. Il y a les habitudes, les pesanteurs qui peuvent être encouragées par les autorités en place. C'est clairement le cas aujourd'hui. Il y a aussi un environnement international qui, aujourd'hui... n'est pas très favorable, il faut le dire, aux forces démocratiques, aux forces d'ouverture en Russie. Mais donc, en réalité, c'est plus ouvert qu'on ne le pense. Et l'une des grandes constantes de l'histoire russe, c'est qu'elle est imprévisible et c'est qu'elle surprend. Et donc, je pense qu'il faut être prudent dans nos évaluations et éviter de projeter à trop long terme la situation actuelle.
Alors, c'est vrai quand même que dans l'histoire russe, il y a eu... très souvent, très longtemps, des pouvoirs forts. Alors, si on remonte très très loin d'Ivan le Terrible à Pierre le Grand, de Pierre le Grand à Catherine II, de Catherine II à Alexandre Ier, sans oublier évidemment Staline, Arnaud Dubien.
Oui, il y a aujourd'hui toujours cette permanence géographique, qui est l'étendue du territoire russe. L'État russe doit, même après une sérieuse amputation en 91, amputation territoriale, a toujours 17 millions de kilomètres carrés à gérer. Il y a deux éléments nouveaux. Il y a malgré tout une réalité politique plus ouverte. On n'est plus à l'époque soviétique, en tout cas pré-perestroïka. Il y a aussi le contexte de la globalisation. Et la Russie, l'État russe, le pouvoir russe ne peut pas faire abstraction de ces deux données que sont la complexité de la société russe, la société des peuples de Russie et d'autre part des grandes évolutions internationales. Et Poutine a beaucoup d'équations complexes à gérer, manifestement.
Et contradictoires. On arrive au terme de cette émission. La démocratie, le libéralisme et les droits de l'homme sont tout de même perçus comme des valeurs étrangères à la Russie, Arnaud Dubien. C'est vous qui allez avoir le mot de la fin.
En tout cas, par une partie de la population, peut-être aujourd'hui par la majorité, je crois que ce qui caractérise la majorité de la société russe aujourd'hui, ce n'est pas un refus de ces valeurs-là, c'est peut-être d'autres priorités et un repli, en tout cas une tentation de repli lorsque les difficultés arrivent sur la sphère familiale. La population russe n'a pas confiance dans son État. Je crois que c'est aussi le fruit de l'histoire et c'est une donnée fondamentale pour comprendre la relation des Russes à la chose politique.
Merci, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission, plein d'infos sur nos invités et une petite biographie pour aller un peu plus loin. Évidemment, vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez à Moscou, à Paris ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.